Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cela fait presque un an, jour pour jour, après l'élection du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, que retenir de cette première année de mandat sur le plan économique? Le Sénégal attire-t-il les investisseurs et quelles sont les perspectives du plan Sénégal 2050, nous en parlons. Ce sera donc un premier bilan d'étape dans cette émission et ce sera dans quelques instants avec notre invité. Dans le Zoom Express, nous parlerons du business des huiles cosmétiques en Afrique. Est-ce un business rentable? Qu'en est-il de la production de ces huiles sur le continent? Vous aurez les détails dans un instant. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Coémergence, l'invité.
Et nous avons le plaisir de retrouver Idriss Lingé, directeur des rédactions de Media Mania. Avec lui, nous allons parler donc du Sénégal et justement, c'était le 25 mars, l'élection du président Bassirou Diomaye Faye en 2024. Ce sera donc bientôt un an. L'occasion de faire donc ce bilan de la première année, donc après l'élection du président sénégalais. Et nous avons le plaisir d'en parler, comme je vous le disais, avec notre analyste Idriss Lingé. Bonjour à vous, Idriss Lingé.
Bonjour, Omar. Et bonjour à tous les auditeurs de Média 1.
Alors, Idriss Lingé, un an après l'élection de Bassirou Diomaye Faye, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le plan économique au Sénégal?
Bon, je pense que sur le plan économique, il est difficile d'établir un an du nouveau gouvernement en place, le président Bassirou et son premier ministre Sonko, simplement parce qu'ils ont hérité d'un Sénégal qui avait déjà besoin d'une espèce de réunification entre les communautés. L'élection a été extrêmement difficile. Dans certains endroits, cela a été assez violent. Donc, du coup, il a d'abord fallu régler ces problèmes d'héritage politique et en même temps d'attaquer les questions économiques. Et justement, un des leviers qu'un gouvernement dispose pour gérer les questions économiques, c'est le budget. Et le budget dépendait un tout petit peu d'un ensemble de ressources que le pays prévoyait de mobiliser et aussi d'obtenir de la part des bailleurs de fonds. Sauf que au moment où ils sont en train de faire une espèce d'audit de l'héritage de Macky Sall, l'équipe du gouvernement réalise qu'il y a une incorrection entre les chiffres de la dette qui étaient déclarés et les chiffres qui étaient réels dans les comptes publics. Et à partir de ce moment, je pense que le Sénégal s'est mis en mode fonctionnement de base afin de pouvoir éclaircir la situation. Et aussi, il fallait qu'un budget soit adopté, qu'il soit validé, il fallait changer le Parlement. Donc, il y a vraiment eu cet ensemble de défis qui font qu'aujourd'hui, ils sont plus en train de gérer un héritage qu'en train vraiment de lancer un processus de développement tel qu'il était prévu.
Alors, un héritage donc qui n'est pas des meilleurs en tout cas. Cela dit, pensez-vous que sur la base des actes posés, est-ce qu'on est en train de redresser positivement la situation ou pas?
Alors, je crois qu'il est très difficile de redresser des économies qui font face à des défis structurels. Déjà que même les économies qui sont très bien structurées, comme les économies européennes, américaines, même japonaises, font face à des défis permanents. Donc, espérer, je crois que c'est aussi un tort de penser qu'on pouvait juste dire au peuple « enlevez les autres, mettez-nous et nous allons tout changer d'un revers de la main ». Bon, la question que tu poses est pertinente. Aujourd'hui, on a viré Macky Sall et son équipe, mais est-ce que ceux-ci sont capables d'inverser la tendance? Ce qui est sûr, c'est que des changements vont survenir. Il y a plus de transparence dans le gouvernement, visiblement. Il y a plus une volonté de communiquer avec les agents économiques. Mais est-ce que c'est principalement de ce type de problème dont souffrait forcément le Sénégal? Je ne pense pas. Il y a la question, par exemple, de résoudre les taux de pauvreté qui restent quand même assez élevés. Et vous l'avez très bien vu, ils ont pris un plan où ils ont dit aux Sénégalais, bon, écoutez, il y avait un plan jusqu'en 2030. Bon, ben nous, on pense qu'il faut attendre 2050. Bon, voilà. C'est déjà la preuve que, de toutes les façons, le changement attendu ne sera pas un changement rapide, mais un changement qui va s'inscrire dans la durée. Or, d'ici 2050, normalement, il y aura d'autres élections. Le peuple est dans l'attente et c'est pas sûr que tout le monde sera satisfait. Donc, je pense qu'il y a des actes positifs comme l'acte de transparence par rapport à la dette, mais je pense aussi qu'il y a encore une très grosse marge de progression et il faudra que le gouvernement continue d'y travailler.
Alors, sur la base donc aujourd'hui du plan Sénégal 2050, cette nouvelle feuille de route du développement qui a été déployée. Comment voyez-vous aujourd'hui sa mise en œuvre et vous paraît-il réalisable selon ces différentes phases? Parce que je rappelle qu'il y a trois phases, la phase à l'horizon 2029, puis 10 ans plus tard et ensuite à l'horizon 2050. Comment voyez-vous son déploiement sur le terrain?
Je pense que c'est toujours très compliqué, hein, ces plans africains qui se projettent à l'horizon Mathusalem. C'est vraiment très compliqué tout ça parce que à la fin, c'est en 2050, peut-être plus personne ne sera plus là pour leur demander des comptes. Non, je pense que ce qui est sûr, le Sénégal a pris de nombreuses décisions qui vont entraîner un certain nombre de chocs extérieurs. Et ces chocs extérieurs, il faudra qu'ils puissent trouver la possibilité de mobiliser de l'argent pour le faire. Prenons par exemple le plan Sénégal 2050. C'est super. Je pense que c'est très bien de montrer un cap comme celui-là. Mais le défi est le suivant. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour financer ça? L'économie du Sénégal est évaluée. C'est l'une des économies où il y a une efficience dans la mobilisation des recettes fiscales. On parle de près de 23% du PIB contre une moyenne africaine qui doit être autour de 19%. Donc le Sénégal est vraiment un bon collecteur d'impôts. Mais le défi, c'est que est-ce que les 23% du PIB du Sénégal, est-ce que cela suffit? Est-ce que les nouveaux projets pétroliers et gaziers ont été négociés de telle sorte que le Sénégal puisse avoir une part équitable? J'ai récemment consulté un document qui avait été rédigé par la CERDI qui disait qu'il y avait une grande marge de progression sur le partage de la rente pétro-gazière. Maintenant, le gouvernement dit même qu'il veut modifier les contrats. Est-ce que cela peut se faire sans incident? Où est-ce que le gouvernement ira trouver de la ressource supplémentaire? Aujourd'hui, il doit pratiquement 2800 milliards aux banques commerciales de la zone UMOA. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être résolu? Donc, je pense qu'il y a un ensemble de choses. Il faut trouver l'argent et maintenant, il faut maintenant mettre en place des politiques publiques et des politiques structurelles qui permettront qu'on puisse amorcer le développement. Mais aussi, il faut définir ce qu'on entend par développement. Parce que beaucoup de gens pensent que lorsqu'on a des immeubles, des autoroutes, des échangeurs et tout le reste, on est développé. En réalité, c'est de l'esthétique. Mais le développement suppose que tout le monde peut accéder à une école, à un soin de santé, à un logement abordable, manger comme il se doit. Or, ces problèmes de base sont pour le moment loin d'être résolus pour ce qui est du Sénégal. D'ailleurs, comme pour beaucoup de pays africains, pas que le Sénégal.
Alors, cela dit, vous avez évoqué la question relative à l'exploitation des ressources minières, mais aussi pétrolières et gazières. Sur ce plan, il y a une volonté de renégociation. Où est-ce qu'on en est?
Alors, ils sont assez discrets sur le sujet. De toutes les façons, je n'ai pas vu une information publique. Mais la vérité, c'est que ça va être très compliqué de renégocier dans la mesure où Les contrats actuellement existants contiennent ce qu'on appelle des clauses de stabilité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée selon laquelle les contrats qui avaient été signés avec l'opérateur australien, Wood & Mackenzie, je pense, en fait, l'opérateur australien, était un contrat qui était unfair, inéquitable, ne vient pas du gouvernement actuel. Hein. Je pense que le gouvernement de Macky Sall s'était déjà rendu compte. C'est pour ça qu'on avait modifié le code pétrolier. On avait introduit des nouvelles dispositions qui permettaient que pour les prochains contrats pétroliers, que le pays puisse avoir davantage de retombées. Mais sauf que l'accord avec l'opérateur partenaire sur les projets gaziers pétroliers au Sénégal sont aussi enfermés dans ce qu'on appelle les clauses de stabilité, ce qui veut dire qu'on ne peut pas, sans effet, sans impact financier, changer du jour au lendemain le contenu du contrat. Donc ça va être une très grosse bataille pour déjà lever ces clauses de stabilité et faire appliquer les nouvelles dispositions ou d'autres dispositions ultérieures à la loi. Et le temps que cela va créer une dispute, personne ne voudra venir dans ce projet parce qu'on se dira, ben voilà, si un gouvernement peut renoncer à ce qu'il s'est pris comme engagement, ça veut dire qu'on ne peut pas traiter avec et le Sénégal n'a pas forcément la compétence pour exploiter pleinement le projet. Donc, c'est plutôt une initiative assez complexe dans laquelle nous soutenons le Sénégal et où nous pensons qu'il est peut-être temps, hein, je ne sais pas si l'on fait, d'aller consulter les solutions de la Banque africaine de développement qui ont des solutions d'accompagnement juridique des pays par la négociation des contrats miniers et pétroliers afin que les pays africains puissent avoir le maximum de la rente pétro-gazière et minière.
Alors, une dernière question, c'est par rapport aux perspectives à court terme.
Alors, les perspectives à court terme les plus importantes pour le Sénégal, c'est que le semblant de stabilité qu'il y a actuellement puisse perdurer sur le long terme. Hein, parce que de toutes les façons, hein, le Sénégal a beaucoup perdu durant la période où on ne savait pas si Macky Sall veut partir ou s'il veut rester, et qu'il y avait des conflits énormes avec beaucoup de gens qui sont morts. Je suis vraiment désolé pour ça. On en parle souvent comme si c'était un fait divers, mais ils sont morts et c'est vraiment dommage. Donc, du coup, les perspectives à court terme, c'est déjà de renforcer la cohésion sociale, de renforcer la paix. Mais de ce que j'ai appris au Sénégal, le peuple a envie de tourner la page. Le peuple s'est dit, OK, même si on ne vit pas encore bien, tout au plus, Macky Sall est parti. C'était un problème que nous avions. Il fallait qu'il parte. Nous, on ne veut plus entendre parler. Maintenant, on va voir ce que va apporter l'équipe Faye en espérant qu'ils vont améliorer les choses. Donc, je pense que sur le court terme, les choses continuent d'être bien. Les banques ne sont pas encore en train de mettre la pression pour que le Sénégal rembourse toute sa dette. Jusque-là, le Sénégal continue d'honorer ses engagements internationaux. Nous attendons de voir ce que va donner la loi de finances qui est modifiée pour voir comment le gouvernement s'adapte à la nouvelle donne par rapport au budget, qui est quand même assez colossal. Donc, voilà. Peut-être d'ici deux ou trois mois, on aura plus de commentaires à faire sur les perspectives à court terme du Sénégal. Voilà.
C'est à suivre donc. Merci à vous, Idriss Lindjé. Je rappelle que vous êtes le directeur des rédactions de Média Mania, qui édite entre autres l'agence panafricaine Ecofin. Vous nous faisiez le point donc sur la première année. Il faut dire que la première année de prise de fonction, ce sera à partir du 2 avril et que du côté de Dakar, on fait comprendre que c'est plutôt peut-être après les élections législatives, donc disons l'installation de l'Assemblée en novembre, que le pouvoir a réellement eu donc les coudées franches. En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous, Idriss Lindjé.
Au revoir.
Zoom Express.
Et dans ce Zoom Express, nous allons parler du business des huiles cosmétiques en Afrique. Est-ce vraiment un business rentable? Qu'en est-il de la production de ces huiles sur le continent? Nous allons parler donc avec Bruno Legendre, qui est le CEO de Sopri-F. Donc, il nous parle depuis le Sénégal. Bonjour à vous, Bruno Legendre.
Bonjour.
Alors, avec nous également Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique, qui connecte les investisseurs de la diaspora africaine. Bonjour à vous, Moustapha El Bouri.
Omar, bonjour.
Alors, le business des huiles cosmétiques. Bruno Legendre, est-ce vraiment on peut parler de business des huiles cosmétiques en Afrique?
Bon, c'est un secteur qui est en train d'émerger quand on parle de cosmétiques naturelles, en tout cas. La cosmétique, c'est un vaste secteur. On travaille dans le domaine de la cosmétique naturelle. C'est un domaine qui émerge. Les Africains sont très sensibles à ce sujet-là.
Alors, parlez-nous justement, vous, de votre expérience. Je rappelle que vous êtes basé dans une ville du centre-ouest du Sénégal, Sokone. Comment évoluez-vous?
Nous, on est établi à Sokone depuis 2008, donc ça fait 17 ans maintenant. C'est une petite entreprise qui travaille avec des producteurs dans le département de Founioune, qui collecte des graines, qui en cultive. On les presse par première extraction à froid, c'est un procédé naturel. Elles sont ensuite simplement décantées et conditionnées.
Alors, qu'en est-il du marché qui s'offre à vous?
Alors, ce marché-là, nous, on travaille avec un grand nombre de petites entreprises sénégalaises. Certaines sont très visibles. On les trouve, par exemple, au duty-free de l'aéroport à Dakar. C'est des marques qui sont maintenant bien établies. D'autres sont de toutes petites entreprises qui développent leur label, qui souvent se limitent à reconditionner nos huiles. Nous, on les vend en bouteille d'un litre ou en bidon de 5 litres, elle les reconditionne en petits flacons. Et puis d'autres, petit à petit, se professionnalisent et vont les transformer en crème ou en savon, toute une gamme de produits cosmétiques. Mmh. Notre clientèle, essentiellement, c'est cette clientèle professionnelle, de petits professionnels, et puis, bon, bien sûr, une clientèle domestique. Mais notre cible privilégiée, c'est les petites entreprises.
Mmh, les petites donc entreprises. Alors, Moustapha El Bouri, ce business des huiles cosmétiques sur le continent, comment évolue-t-il?
Déjà, il faut dire que la taille, moi j'ai été aussi surpris par les chiffres, la taille du marché africain des huiles cosmétiques, en 2024, elle a été estimée à 5 milliards de dollars. Donc, c'est quand même pas un petit business. Et cette taille devrait atteindre les 8 milliards d'ici 2029. Donc, c'est un secteur qui est très, très porteur. C'est aussi un secteur, je pense, qui était aussi, Bruno pourra le confirmer, qui était quand même longtemps marginal, quoi. Bon, je ne pense pas que nos grands-parents étaient très focus sur les huiles cosmétiques, mais il prend de plus en plus d'ampleur sur le continent africain. Il y a quand même une sensibilisation, je dirais, croissante, plus de la gente féminine, à l'hygiène personnelle, et tout ça, couplé aussi avec... avec l'importance que joue, bon, faut le reconnaître, tous les produits commerciaux, tout ça, ça contribue quand même à un certain ancrage du marché dans toutes les régions d'Afrique. Moi, je voyage beaucoup en Afrique, je vois vraiment qu'il y a une demande qui est de plus en plus forte. L'attrait de ces produits, cosmétiques, c'est vraiment un phénomène panafricain. Et je vois de plus en plus de consommateurs qui sont prêts à dépenser pas mal d'argent, surtout les consommatrices. Pour de tels produits de beauté.
Alors, Bruno Legendre, cela dit, pour vous, le développement de ce business passe par quoi? Est-ce une meilleure promotion au niveau des marchés étrangers ou bien une clientèle locale, africaine? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait grandir ce marché?
Bon, je dirais que c'est les deux. Nous, on a ciblé en priorité la clientèle sénégalaise parce qu'on a été tout de suite... confronté à une très forte demande qui quasiment absorbait toute notre capacité de production. Mais le marché à l'exportation est de plus en plus intéressant. On a beaucoup de Sénégalais de la diaspora qui sont établis en France, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, on en a un peu partout, qui s'intéressent à nos produits et qui développent les marchés à l'extérieur. Et je pense que c'est vraiment une voie d'avenir pour nous.
Une voie d'avenir. Alors, est-ce que c'est un business qui est facile à mener sur le continent par rapport à la disponibilité de la matière, mais aussi par rapport à ce changement climatique qui impacte le monde ou l'univers végétal?
Oui, effectivement, c'est un souci que l'on a. L'approvisionnement en matière première, qui est notre première contrainte, ce n'est pas toujours évident. Les cycles de production sont transformés. Vous voyez, par exemple, l'huile de Touloukouna qui est très demandée. L'année dernière, la récolte a été désastreuse. Et cette année, elle se trouve décalée de 2 ou 3 mois, si bien qu'on se trouve avec des ruptures de stock. On a de grosses difficultés dans la maîtrise des cycles de production du fait, je pense, en grande partie, oui, du changement climatique. Alors, mais ce n'est pas notre seul problème. On est confronté aussi à des difficultés d'approvisionnement en conditionnement de qualité. Il y a tout un environnement professionnel qui nous fait défaut hein, dans un pays comme le Sénégal.
Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour mieux mettre ces systèmes de production dans une logique d'industrialisation pure et dure?
Bah justement, ce que je viens d'évoquer, déjà, il faudrait qu'on puisse avoir accès à des produits de conditionnement, que ce soit des emballages, que ce soit des flacons et autres de qualité. Et actuellement, on est dépendant d'une ou deux entreprises qui ont un monopole sur le marché, qui ne fabriquent pas nécessairement ou fournissent des produits qui correspondent aux besoins de ce secteur-là. Je pense qu'il y a des opportunités aussi hein, d'affaires pour développer tout ce qui peut en amont faciliter le développement de ce secteur-là qui, comme on le disait tout à l'heure, qui est en plein essor.
En plein essor. Justement, de ces perspectives, Moustapha El Bouri, vous qui nous accompagnez dans cette émission et suivez les tendances et les évolutions sur le plan du business dans le continent, quelles perspectives voyez-vous se dégager pour ce business des huiles végétales cosmétiques?
Oui, Omar, je pense honnêtement que le marché est là. Hein. D'ailleurs, quand on voit que les grands noms, je ne vais pas les citer, mais les grands groupes internationaux du marché des cosmétiques sont de plus en plus présents, et utilisent aussi dans leur gamme de produits des produits purement, je dirais, africains. Donc, ils ont compris que c'était un domaine qui était très porteur. Mais ce qui est très gratifiant aussi, c'est qu'on voit comme le et Bruno, c'est qu'on voit aussi de plus en plus de marques, je dirais, made in Afrique, qui voient le jour, qui essayent, bon an, mal an, de tirer leur épingle du jeu. Et tout ça, c'est prometteur. Maintenant, c'est vrai, tous les ingrédients sont là, comme disait Bruno. L'industrie de la cosmétique est encore à développer. Et moi, je dirais qu'il faudrait vraiment structurer le secteur. Il n'est pas assez structuré. Il faut le structurer pour créer plus d'emplois. Il faut aussi, je pense qu'il y a un manque de formation. Il y a un manque de formation. C'est vrai que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le domaine, mais qui ne sont pas formés. Bruno, c'est quelqu'un que je connais, qui est très, très, très professionnel, produit de très bonne qualité. Maintenant, il y a des gens qui ont besoin, je pense, de formation. Donc, c'est un secteur qui est vraiment à travailler, mais qui est très, très prometteur pour le continent.
Donc, c'est à suivre. Merci à vous deux. Bruno Legendre, CEO de l'entreprise Sopriev, basée au Sénégal et actif dans le business des huiles végétales cosmétiques, ainsi qu'à Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Merci Omar. À très bientôt.
Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah.